Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi du commentaire, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. BNPT encourage le renforcement de l'application de loi. L'Indonésie et la Chine ont convenu, les incidents à Natuna sont considérés comme terminés. Le directeur de l'OMC apprécie le programme de la réforme économique de l'Indonésie. L'Indonésie et la Chine continueraient le projet de train rapide. L'Indonésie et la Turquie ont convenu d'intensifier la coopération économique. Et enfin, le ministre du Tourisme veut accélérer le développement de 10 destinations prioritaires. Voici le journal complet. L'Agence nationale pour la lutte contre le terrorisme, BNPT, a encouragé le renforcement des efforts d'application de la loi pour neutraliser la menace de terrorisme et la propagation de l'idéologie radicale en Indonésie. C'est ce qu'a affirmé le chef de BNPT, Tito Karnavian, dans une séance de travail de BNPT avec la Commission 3 du Parlement indonésien, mercredi à Jakarta. Selon lui, pour renforcer l'effort d'application de la loi, le gouvernement indonésien devrait renforcer les capacités d'application de la loi, à savoir le renforcement de surveillance et la détection d'intelligence, le renforcement de la capacité de la recherche scientifique et le renforcement des capacités de poursuite dans tous les domaines. En outre, selon Tito, le gouvernement indonésien devrait également renforcer la coordination entre toutes les parties afin d'empêcher l'idéologie radicale répandue parmi les sociétés vulnérables, y compris le renforcement de la réhabilitation des condamnés de terrorisme comme partie des efforts de radicalisation.
Indonesia, semenjak bom Bali, di era demokrasi ini,
l'Indonésie, depuis la bombe de Bali, dans l'ère de la démocratie, préfère choisir l'effort d'application de la loi en raison de la suprématie de la loi. Donc, nous devons renforcer les capacités de l'application de la loi. Deuxièmement, et de renforcer les capacités et la coordination dans le cadre de la prévention et de la réhabilitation. En outre, Tito Karnavian a dit que le gouvernement indonésien devrait également considérer la nécessité de mettre en place la prison spéciale pour les condamnés terroristes. Compte tenu, les prisons actuelles leur permettent de recruter d'autres détenus criminels. Selon Tito, l'Indonésie a besoin d'une prison de haute sécurité qui évite les condamnés terroristes pour communiquer avec l'extérieur et pour empêcher le plan des actes de terrorisme à l'intérieur de la prison. Le gouvernement indonésien estime que les problèmes entre le ministère des Affaires maritimes et de la pêche avec le garde côtier de la République populaire de Chine dans les eaux de Natuna il y a quelque temps a été achevé. Cela a été dit par le secrétaire général du cabinet, Pramono Anung, au palais présidentiel à Jakarta, mercredi. Il n'a pas expliqué les détails du processus de solution du problème. Mais selon lui, l'Indonésie et la Chine soutiennent la solution du problème à Natuna pacifiquement, le respectent mutuellement et n'impliquent pas les parties en dehors de la région. Pramono Anung est sûr que l'Indonésie et la Chine peuvent respecter les eaux territoriales de chaque pays. Le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, Roberto Azevedo, apprécie le programme de la réforme économique de l'Indonésie qui est actuellement fait par le gouvernement de Joko Widodo. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Commerce, Thomas Lembong, après avoir accompagné le président Joko Widodo à recevoir le directeur général de l'OMC au Palais d'État Jakarta mercredi. Azevedo apprécie le président sur le programme de la réforme économique. L'agenda de la réforme économique indonésienne peut être un modèle pour d'autres pays. Lors de la réunion, le président Joko Widodo a expliqué à Azevedo sur le programme de réglementation et 11 programmes économiques qui ont été publiés. Selon le ministre du Commerce, en tant que membre de l'OMC, la position de l'Indonésie est tout à fait spéciale. Elle est un grand pays, mais encore un pays en développement. Azevedo apprécie également le rôle de l'Indonésie, qui est très constructive et positive à la conférence de l'OMC à Bali il y a 3 ans et Nairobi en 2015. Le gouvernement indonésien et le gouvernement chinois continueraient divers plans de coopération, y compris le projet de train rapide Jakarta-Bandung. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire du cabinet Pramono Anung mercredi au complexe du palais présidentiel à Jakarta après que le président Joko Widodo ou Jokowi ait reçu la délégation du ministre du département international du comité central du Parti communiste de Chine, Song Tao. Lors de cette réunion, selon Pramono, ils ont discuté de diverses choses, entre autres la coopération économique. En plus de projets de train rapide, la coopération dans d'autres domaines a également été développée, entre autres dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, l'énergie et des infrastructures. L'Indonésie et la Turquie ont convenu d'intensifier la coopération bilatérale, à savoir renforcer les relations économiques et resserrer la coopération d'éradication du terrorisme. Le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères a mentionné que cet accord était le résultat de la réunion de la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, avec son homologue de la Turquie, Mevlut Cavusoglu, en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères au sommet de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, à Istanbul, en Turquie, mercredi. Ceci est un accord des deux ministres des Affaires étrangères, compte tenu la valeur commerciale des deux pays en 2015 a atteint seulement 1,4 milliard de dollars américains. Les deux ministres des Affaires étrangères ont également discuté des progrès de la coopération dans les domaines des industries stratégiques, entre autres dans le domaine de l'équipement de communication de la défense pour la frontière. Concernant la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, les deux ministres se sont engagés à échanger des informations sur les défis rencontrés dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Le ministre du Tourisme, Arif Yahya, veut accélérer le développement de 10 destinations prioritaires pour former immédiatement 10 nouvelles Bali en Indonésie. À cette fin, le ministre Arif Yahya a invité le gouverneur Erezan, dont le territoire est défini comme les 10 destinations touristiques prioritaires d'Indonésie, pour mener une réunion de coordination à Jakarta mercredi. Le ministre a souligné que le gouvernement local doit soutenir et mettre en œuvre l'accélération du développement des destinations touristiques prioritaires sérieusement et concrètement. Les 10 destinations sont le lac Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo, Tengger, Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi et Morotai. Sergitar, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Sixième longtemps, après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et en pour le titre. l'agitation du Conseil des représentants régionaux, DPD, liée aux problèmes techniques. L'agitation s'est produite à l'ouverture de la session du Conseil des représentants régionaux, DPD, au début de cette semaine. Malheureusement, cela n'a pas été lié à des questions substantielles dans le cadre de la vision du développement régional. L'agitation parmi les membres de DPD a eu lieu depuis janvier dernier concernant les questions et les formalités techniques comme la discipline et le mandat du dirigeant de DPD. Pro et contre de la proposition de réduction du mandat de DPD de 5 ans à 2 ans, 6 mois est toujours en course. En fait, il est devenu un conflit ouvert qui est clairement visible en public. L'agitation du DPD a soulevé des questions sur la capacité de l'institution à maintenir son honneur et à montrer une bonne performance. Il est à craindre que l'agitation montrée par DPD augmentera le cynisme du public envers cette institution. Pourtant, le rôle du Conseil est très stratégique même pour le développement régional. Les gens ne seraient pas perturbés si l'agitation de DPD se produit en raison de graves débats sur une stratégie de développement plus équitable pour toutes les régions en Indonésie. Le programme de développement régional devrait être la mise au point de la lutte du DPR, pas les intérêts internes. Cette agitation a montré que les membres de DPD n'étaient pas en mesure de résoudre le conflit dans leur propre corps. L'agitation qui s'est produite est aussi un exemple de l'incapacité des élites pour résoudre les conflits d'organisation, l'institution et l'État. Certaines questions sérieuses qui viennent toujours sont sur la capacité des élites à résoudre les conflits, y compris les conflits organisationnels. La capacité et la sagesse sont nécessaires pour résoudre les questions. Comment les élites sont capables de résoudre les problèmes complexes envisagés soudainement par la nation et l'État, si la capacité de résolution des problèmes internes de l'organisation n'est pas évidente? Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ces auditeurs, nous allons vous raconter dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire La Voix de l'Indonésie, l'édition 14 avril. On va commencer 14 avril 2012, naufrage du Titanic. Le 23h45, le paquebot américain Titanic heurte un iceberg au large de Terre-Neuve dans l'Atlantique Nord. Le choc provoque un trou de 90 mètres long de l'avant au milieu du bateau. Fleuron de la compagnie maritime White Star Line, le plus grand, 269 mètres, et le plus luxueux navire du monde, était réputé insubmersible. Il sombre pourtant dans l'océan quelques heures plus tard. La catastrophe entraîne la mort de 1513 personnes, en majorité des hommes et des passagers de troisième classe qui n'ont pu embarquer le canot du sauvetage. Avec 2224 voyageurs à son bord, le Titanic ne possède que 1178 places sur les canaux. Le navire Carpathia sauvera dans la nuit 711 personnes. Le Titanic a fait quitter Southampton en Angleterre le 10 avril. Il devait arriver à New York le 16. En chance, le 14 avril 2010, le séisme 9,9 de magnitude a secoué Yushu, Qinghai, République populaire de Chine. 2700 personnes ont été tuées. Le séisme de Yushu a eu lieu le 14 avril 2010 avec la force de 9,9 sur l'échelle de Richter. Plus de 2000 personnes ont été confirmées mortes et plus de 10 000 autres personnes ont subi des blessures. The United States of Geological Survey Institution, USGS, a déclaré la série de tremblements de terre qui ont secoué la Chine occidentale était le plus grand de 9,9 sur l'échelle de Richter. USGS a enregistré 6 tremblements de terre au lieu en moins de 3 heures et tout était supérieur à 5,0 sur l'échelle de Richter. Le centre du séisme en Chine a noté que l'un de la série que le séisme mesure 7,1 sur l'échelle de Richter. USGS explique d'abord l'épicentre situé à 380 km au sud-est de Golmud. Une grande ville dans le Qinghai a une profondeur de 10 km. Environ 10 minutes plus tard, la région a été frappée par une réplique de magnitude 5,3 sur l'échelle de Richter, suivie par un séisme de magnitude 5,2 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre a eu lieu allant après l'autre effet des ravages sur la plupart des régions du Qinghai. On chance le 14 avril 1931, première émission de la télévision publique. L'ingénieur français René Barthélemy réussit pour la première fois en France à retransmettre une image de trains lignes entre Montreux et Malakoff en banlieue parisienne. Directeur du centre expérimental de Montreux, Barthélemy a développé un procédé de télévision qu'il ne cessera de perfectionner. 4 ans plus tard, il réalisera la première émission régulière de télévision française. On termine le 14 avril 1931, proclamation de la Seconde République espagnole. La Seconde République espagnole est proclamée le 14 avril 1931 à la suite des élections municipales en faveur des républicains. Le roi fuit alors Madrid, ce qui permet à la gauche espagnole de former un gouvernement provisoire. Niceto Alcalá Zamora prend la présidence de la République et entreprend une réforme agraire. Cependant, la guerre civile rattrape la Seconde République. L'Espagne tombe alors aux mains du dictateur Franco. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui, ce soir. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée La préparation de la bureaucratie indonésienne face aux défis de la communauté économique de l'ASEAN. Le président indonésien Joko Widodo rappelle l'importance de la préparation à la compétition économique mondiale, car l'impact de l'économie mondiale touchera aussi l'Indonésie. Il a été dit par le président lors d'une réunion de travail du gouvernement 2016 récemment à Jakarta. Selon le président, l'Indonésie fait face à la communauté économique de l'ASEAN ou CEA, et aussi la zone européenne de libre-échange de l'Union européenne et le bloc de la Chine ainsi que le bloc économique créé par les États-Unis. Il est donc difficile pour l'Indonésie à refuser la concurrence mondiale étant faite par les pays dans le monde. Selon le président, les gouvernements centraux et locaux doivent avoir la même stratégie face à l'assaut de l'économie mondiale. L'Institut d'administration d'État, ou LAN, reconnaît la bureaucratie indonésienne face encore de graves défis dans la communauté économique de l'ASEAN qui a été réalisée depuis le début de l'année 2016. Le directeur de LAN, M. Adi Suryanto, a déclaré récemment à Jakarta que la CEA était une opportunité et un défi. Est-ce que le gouvernement est prêt? Parce que le gouvernement a longtemps vécu dans une culture non-concurrence. Selon Adi, la posture de la bureaucratie qui existe aujourd'hui à la concurrence, surtout dans la CEA, devient un travail très dur. On a besoin de bonnes stratégies et un grand effort du gouvernement pour que les fonctionnaires puissent augmenter la capacité et la compétence en fonction de leurs besoins respectifs. Dans certaines régions en Indonésie, il y a déjà différentes formes de formation à l'appareil d'État. Mais ce n'est pas toutes les régions ont ces programmes. Surtout en ce moment, les fonctionnaires sont encore considérés comme un facteur de production et non les biens de l'État. Par conséquent, pour résoudre ce problème, il doit avoir le changement de paradigme et le point de vue sur la gestion des compétences des employés. Il doit avoir un changement fondamental dans la politique. Les agences de développement, l'éducation et la formation dans la région doivent se concentrer sur l'expertise. Parce que la compétitivité régionale et la valeur de la concurrence sont deux aspects importants de faire face à la communauté économique de l'ASEAN. À cette époque, les gens ne sont pas seulement en concurrence avec d'autres régions en Indonésie, mais aussi en concurrence avec d'autres villes ou régions de l'ASEAN. C'était la mise au point de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
L'Agence nationale pour la lutte contre le terrorisme, BNPT, a encouragé le renforcement des efforts d'application de la loi pour neutraliser la menace du terrorisme et la propagation de l'idéologie radicale en Indonésie. C'est ce qu'a affirmé le chef de BNPT, Tito Karnavian, dans une séance de travail de BNPT avec la Commission 3 du Parlement indonésien, mercredi à Jakarta. Selon lui, pour renforcer l'effort d'application de la loi, le gouvernement indonésien devrait renforcer les capacités d'application de la loi, à savoir le renforcement de surveillance et la détection d'intelligence, le renforcement de la capacité de la recherche scientifique et le renforcement des capacités de poursuite dans tous les domaines. En outre, selon Tito, le gouvernement indonésien devrait également renforcer la coordination entre toutes les parties afin d'empêcher l'idéologie radicale répandue parmi les sociétés vulnérables, y compris le renforcement de la réhabilitation des condamnés de terrorisme comme partie des efforts de radicalisation. Masuk insert dari
Indonesia semenjak bom Bali. Di era demokrasi ini,
l'Indonésie, depuis la bombe de Bali, dans l'ère de la démocratie, préfère choisir l'effort d'application de la loi en raison de la suprématie de la loi. Donc, nous devons renforcer les capacités de l'application de la loi. Deuxièmement, est de renforcer les capacités et la coordination dans le cadre de la prévention et de la réhabilitation. En outre, Tito Karnavian a dit que le gouvernement indonésien devrait également considérer la nécessité de mettre en place la prison spéciale pour les condamnés terroristes. Comme tenu, les prisons actuelles leur permettent de recruter d'autres détenus criminels. Selon Tito, l'Indonésie a besoin d'une prison de haute sécurité qui évite les condamnés terroristes pour communiquer avec l'extérieur et pour empêcher le plan des actes de terrorisme à l'intérieur de la prison. Le gouvernement indonésien estime que les problèmes entre le ministère des Affaires maritimes et de la pêche avec le garde côtier de la République populaire de Chine dans les eaux de Natuna il y a quelques temps a été achevé. Cela a été dit par le secrétaire général du cabinet, Pramono Anung, au palais présidentiel à Jakarta, mercredi. Il n'a pas expliqué les détails du processus de solution du problème. Mais, selon lui, l'Indonésie et la Chine soutiennent la solution du problème à Natuna pacifiquement, le respectent mutuellement et n'impliquent pas les parties en dehors de la région. Pramono Anung est sûr que l'Indonésie et la Chine peuvent respecter les eaux territoriales de chaque pays. Le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, Roberto Azevedo, apprécie le programme de la réforme économique de l'Indonésie qui est actuellement fait par le gouvernement de Joko Widodo. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Commerce, Thomas Lembong, après avoir accompagné le président Joko Widodo à reçu le directeur général de l'OMC au Palais d'État Jakarta, mercredi. Azevedo apprécie le président sur le programme de la réforme économique. L'agenda de la réforme économique indonésienne peut être un modèle pour d'autres pays. Lors de la réunion, le président Joko Widodo a expliqué à Azevedo sur le programme de réglementation et 11 programmes économiques qui ont été publiés. Selon le ministre du Commerce, en tant que membre de l'OMC, la position de l'Indonésie est tout à fait spéciale. Elle est un grand pays, mais encore un pays en développement. Azevedo apprécie également le rôle de l'Indonésie, qui est très constructive et positive à la conférence de l'OMC à Bali il y a 3 ans et Nairobi en 2015. Le gouvernement indonésien et le gouvernement chinois continueraient divers plans de coopération, y compris le projet de train rapide Jakarta-Bandung. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire du cabinet Pramono Anung mercredi au complexe du palais présidentiel à Jakarta après que le président Jokowi ait reçu la délégation du ministre du département international du comité central du Parti communiste de Chine, Song Tao. Lors de cette réunion, selon Pramono, ils ont discuté de diverses choses, entre autres la coopération économique. En plus du projet de train rapide, la coopération dans d'autres domaines a également été développée, entre autres dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, l'énergie et des infrastructures. L'Indonésie et la Turquie ont convenu d'intensifier la coopération bilatérale, à savoir renforcer les relations économiques et resserrer la coopération d'éradication du terrorisme. Le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères a mentionné que cet accord était le résultat de la réunion de la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, avec son homologue de la Turquie, Mevlut Cavusoglu, en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères au sommet de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, à Istanbul, en Turquie, mercredi. Ceci est un accord des deux ministres des Affaires étrangères, compte tenu la valeur commerciale des deux pays en 2015 a atteint seulement 1,4 milliard de dollars américains. Les deux ministres des Affaires étrangères ont également discuté des progrès de la coopération dans les domaines des industries stratégiques, entre autres dans le domaine de l'équipement de communication de la défense pour la frontière. Concernant la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, les deux ministres se sont engagés à échanger des informations sur les défis rencontrés dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Le ministre du Tourisme, Arif Yahya, va accélérer le développement de 10 destinations prioritaires pour former immédiatement 10 nouvelles Bali en Indonésie. À cette fin, le ministre Arif Yahya a invité le gouverneur Erezang, dont le territoire est défini comme les 10 destinations touristiques prioritaires d'Indonésie, pour mener une réunion de coordination à Jakarta mercredi. Le ministre a souligné que le gouvernement local doit soutenir et mettre en œuvre l'accélération du développement des destinations touristiques prioritaires sérieusement et concrètement. Les 10 destinations sont le lac Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo, Tengger, Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi et Morotai. Serge Dutard, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et la variété indonésienne.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir et bienvenue dans la nouvelle édition magazine culturel. Sego Jawa ou le riz Jawa, un plat typique de la communauté Dusing à Banyuwangi, Java Est, est le sujet pour le magazine culturel pour l'édition de jeudi 14 avril 2016. Le 9 avril, le gouvernement de la régence de Banyuwangi, Japaes, a organisé un festival culinaire Sego Chawo. Sego Chawo est un repas typique qui est utilisé comme un menu de petit déjeuner des gens de Banyuwangi. Le festival culinaire Sego Chawo a eu lieu à partir de 20h autour du parc Blambangan. Cet événement a été participé par des centaines de participants. La population de Banyuwangi est très variée, la majorité est les Using. Sego Chawo est introduit dans ce festival pour plus promouvoir le plat de patrimoine culturel des gens d'Using. En outre, comme un événement promotionnel des destinations touristiques culinaires de Banyuwangi. En plus, ce festival dans le parc Blambangan est également tenu Banyuwangi Agro Expo et la Semaine des Arts qui a eu lieu du 9 au 16 avril 2016. Le Nasi Chawo est le repas typique des Using, les autochtones de Banyuwangi. Il se compose de riz qui est mélangé avec le lait de coco, les tranches de concombre, la noix de coco râpée et aussi le maïs grillé. Généralement, cet aliment est épicé. D'habitude, cette nourriture typique de Banyuwangi est mangée avec divers plats d'accompagnement, tels que le pépès de poisson. C'est la cuisson de poisson en feuilles de bananier et pour la cuisson, elle peut se faire dans un four à micro-ondes, mais aussi dans de l'eau bouillante ou avec des braises d'un feu. Outre le pépès, il y a aussi les œufs pindang, le dendeng est une viande qui est coupée mince, assaisonnée à la sauce de tamarine, salée et sucrée, et séchée à la basse température ou bien séchée au soleil. Le riz chawo est servi généralement dans le pinchuk ou l'assiette à base de feuilles de bananier. Le prix pour une portion de Sego Chawo tout à fait abordable, de 7 000 jusqu'à 15 000 rupiah selon les plats commandés. Le nom de Nasi Chawo ou Sego Chawo vient de l'habitude de manger les Using. Dans le passé, avant qu'il y ait de cuillères et de fourchettes, les populations locales ont mangé avec les doigts. La façon de manger les Using nommée Chawo. Par conséquent, ce culinaire nommé le Nasi Chawo. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de vendeurs de Sego Chawo à Banyuwangi parce que le nombre de types d'aliments à cuire dans une portion de Sego Chawo. Pour cuire ce plat, d'habitude, les commerçants commencent à cuire à 2h parce qu'il existe de divers plats d'accompagnement. Le nombre de vendeurs de ce plat est de moins en moins. Pour cette raison, le gouvernement de Banyuwangi continue à promouvoir ce plat traditionnel, entre autres par le festival de Sego Chawo, qui a eu lieu il y a quelque temps. Et si vous êtes un amoureux de la gastronomie, et si vous êtes à Banyuwangi, n'oubliez pas de goûter le menu de petit déjeuner typique des gens d'Using. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure le magazine culturel de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers fidèles amis, la voix de l'Indonésie dans 4 coins du monde. Voici le magazine de couleurs indonésienne, édition de jeudi. Et pour ce soir, le sujet est la parade ethnique de Cilegon ou le carnaval de Cilegon.
Et assurez-vous que vous restez toujours avec nous dans www.foi.co.id ou sur la fréquence 9525 kHz dans le Ankout. Chers amis, Cilegon est une ville dans la province de Banten, surnommée la ville industrielle en raison de la grande zone industrielle en ville. Outre la ville industrielle, cette ville étant au bord du détroit de Sunda, est également connue comme la ville de baja ou acier. L'industrie de fer ou acier à Cilegon est le plus grand producteur d'acier en Asie du Sud-Est, pour environ 6 millions de tonnes d'acier produites chaque année dans la zone industrielle de Krakatau Steel. À cause de la ville industrielle, surtout l'acier, les touristes visitent rarement à Cilegon. La plupart des gens viennent à cette ville pour le travail ou les affaires. Pourtant, en termes de tourisme, la ville de Cilegon a des destinations touristiques attrayantes. Il y a le Mont de Batur comme destination d'agrotourisme et le complexe de Club Krakatau qui a été construit avec des variétés d'installations de loisirs pour répondre aux besoins des familles et des expatriés. Chers amis, pour attirer les touristes à Cilegon, l'administration a tenu des variétés d'activités. L'un d'entre eux sera bientôt en cours et le Carnaval ethnique 2016. Ce carnaval, qui est organisé pour la quatrième fois, aura lieu le 27 avril devant la mairie de Cilegon. On organise cet événement en même temps pour faciliter les spectacles de culturel et d'art ainsi que toutes les ethnies de différentes régions, en particulier à Cilegon. Avec le thème l'ethnie multiculture en harmonie, cette activité va aussi organiser la parade et le concours de costumes de parade avec le concept de royaume d'archipel. On souhaite que les participants soient des écoles, collèges, des ateliers ou individuels. Contrairement à l'année dernière, cette année, il y a l'addition de distance de parade. Si auparavant le défilé a passé à la rue devant le bureau de mairie Cilegon, pour la prochaine, il traversera la rue principale du bureau de mairie à la résidence du maire. Serviteurs amis, comme son nom le carnaval ethnique de Cilegon, il présentera des activités culturelles et ethniques qui se développe à Cilegon sans perdre la culture d'origine de cette ville. Sans perdre la culture d'origine de cette ville. La diversité culturelle autochtone de Cilegon, en effet, devient la nouvelle force pour rendre la ville comme celle des métropolis, mais toujours respecter la culture traditionnelle et l'environnement. Dans ce festival, il y aura au moins 5 types de cultures autochtones de Cilegon et 48 icônes de costumes contemporains, y compris les costumes de batik originaux de Cilegon. Chers amis, c'était le magazine de couleur indonésienne ayant le titre Carnival ethnique de Cilegon 2016. Merci de votre attention et fidélité. À la prochaine fois. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction. Aujourd'hui, vous allez écouter les chansons à rythme pop.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine musical. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des musiques indonésiennes. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous allons vous présenter Sandro Tobing. Pour ouvrir notre rencontre, voici la chanson de Sandro Tobing intitulée « Nuance d'amour ». Bonne écoute. C'était la chanson de Sandro Tobing intitulée Nuance d'amour. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.co.id, et nous vous invitons également à rejoindre La Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Sandro Tobing, né le 17 mars 1963, est un chanteur solo de pop de l'Indonésie. Sandro avait gagné le premier champion du concours de chant, la vedette de la radio et de la télévision aux années 1980. De ce concours de chant, Sandro a commencé sa carrière dans l'industrie musicale de l'Indonésie. Certains producteurs s'étaient intéressés à un bel homme de Medan à enregistrer leurs chansons. Bon, serviteur, avant que nous en savions plus sur ce chanteur, écoutons maintenant sa chanson intitulée « Accueillir l'amour ». Bonne écoute.
Getarkan asma
Chers amis lointains, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec un chanteur, Sandro Tobing. La présence de Sandro Tobing dans l'industrie de la musique pop d'Indonésie aux années 80 a donné sa propre couleur. Grâce à sa maturité vocale, Sandro a gagné avec succès le goût des amateurs de la musique pop indonésienne. Après qu'il soit succès dans l'industrie musicale indonésienne, Sandro a commencé à s'intéresser au monde de films. Il a joué certains cinémas électroniques. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons intitulées « Notre amour rouge et noir » et « Attendre l'amour ». Bonne écoute et au revoir.
Tahu rindu menanti seputih melati bunga kasihku ini di dalam diri engkau tumbuh dan bersemi. Ku rasa hasrat lirik menyapa di selaraga yang tak berdaya. Mungkinkah nurani cinta kini meraja? Asmara telah tiba dan mimpi kita berdua. Ada atau juga tiada, merah hitam cinta kita. Sejak ini semakin kemarah di dalam dunia, semua pasti ada dan merah hitam cinta kita berdua. Berdaya, mungkinkah nurani cinta kini meraja? Asmara telah tiba dan mimpi kita berdua. Ada atau juga tiada?
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Inikah awal bencana?
C'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.